Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, dans quelle mesure la question des paradis fiscaux constitue un enjeu mondial? Nous retrouvons nos invités Alain Denot, enseignant à l'Université de Montréal, chroniqueur dans la revue Liberté, chercheur au réseau pour la justice fiscale et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Paradis fiscaux, la filière canadienne, Barbade, Caïman, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario, aux éditions Éco-Société, et Daniel Lebeg, président de Transparency International France. Alain Denot, on a quitté la première partie de l'émission en parlant des multinationales, qui finalement se retrouvent intelligemment à aller chercher dans quel pays européen ou non européen s'installer pour payer le moins d'impôts possible. En préparant cette émission, j'ai quand même trouvé des chiffres qui m'ont surpris et dont je fais part à nos auditeurs. Luxembourg, Irlande, Pays-Bas ou Grande-Bretagne ont finalement des taux d'imposition bien éloignés des 24% à 34% officiels selon les pays. Et la commission de Bruxelles, donc, comme le disait Daniel Lebeg, a décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer si les généreux régimes fiscaux dont bénéficient les multinationales ne constituent pas des aides d'État illégales. Alors, je les donne, ces taux d'imposition, 2,2% de taxes en Irlande, 2,4% au Luxembourg et 3,4% aux Pays-Bas. Je parle sous votre contrôle, à l'un et à l'autre. On n'est pas si loin, évidemment, des 0,4% pratiqués par les Bermudes. Mais donc, Alain Denot, les multinationales qu'évoquait tout à l'heure Daniel Lebeg, et notamment les sociétés informatiques qui sont installés à droite et à gauche, qui intelligemment ont monté des systèmes qui leur permettent de payer le moins d'impôts possible, tout cela est simplement le fait d'une concurrence entre États sur le plan fiscal.
Ce qui peut être aussi une définition de la mondialisation telle qu'elle se manifeste dans notre histoire, en tout cas à notre époque. Les grandes entreprises, les détenteurs de fortune, peuvent, grâce aux législations de complaisance, aux paradis fiscaux, inscrire leurs opérations dans des pays qui correspondent à peu près à leurs fantasmes. Par exemple, dans les années 1960, aux Bahamas, le ministre des Finances était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, il pouvait, le jour, gérer son pays en fonction des intérêts de la banque qu'il administrait le soir. Et on a énormément de témoignages de la façon dont les paradis fiscaux se sont constitués comme un régime de souveraineté, au fond, parallèle, d'acteurs privilégiés. Et depuis cette position, celle des paradis fiscaux, où transitent la moitié des flux financiers mondiaux, quand même, les acteurs souverains de la finance ont pu mettre en concurrence les États les uns contre les autres pour les entraîner dans une logique de dumping qu'on essaie, grâce aux mesures que Daniel Lebeg citait, d'arrêter. Mais le problème, c'est que ce phénomène-là, il se démultiplie dans plusieurs secteurs. Pas seulement dans le secteur de la fiscalité ou quant à la question de la fiscalité, mais au fond, s'il y a autant de paradis fiscaux et de législations de complaisance. C'est parce que chaque législation de complaisance a, en quelque sorte, son expertise propre. On peut voir les législations de complaisance comme les boutiques dans une rue commerçante, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont chacun leur expertise. On ne fait pas en Irlande ce qu'on fait au Libéria, on ne fait pas au Libéria ce qu'on fait aux îles Seychelles. C'est-à-dire que dans le domaine de l'assurance, de la finance à risque, du transport maritime, du travail, de l'industrie minière, de l'énergie, on trouve des législations qui ont aménagé leur territoire de façon à permettre à des acteurs de contourner toute contrainte en vigueur chez eux quand vient le temps de mener des opérations, et souvent seulement grâce à des opérations d'écriture comptable ou juridique. C'est cela qui explique qu'aujourd'hui, la mondialisation est souvent associée, en ce qui concerne le travail, à la délocalisation. Sans les législations de complaisance, rien ne justifierait que le micro dans lequel je parle maintenant a sans doute été fabriqué en Chine. Pourquoi? Parce que les zones franches ont permis au Bangladesh, en Haïti, en Inde, en Jamaïque, en Chine, de délocaliser le travail pour contourner des acquis sociaux que des populations s'étaient donnés en France, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Et les zones franches permettent aux armateurs de transporter cette marchandise à peu de frais, parce que là aussi, on peut négliger les lois environnementales, les lois relatives à la sécurité au travail, ou les lois du travail, donc un salaire minimum, le droit à la syndicalisation, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que les biens de première commodité qu'on utilise, ou les biens de la grande industrie qu'on utilise, sont fabriqués si loin, et provoquent le chômage dont on parle tant dans ce pays, par exemple, c'est parce qu'il y a les législations de complaisance. Donc, elles sont au centre d'à peu près tous les problèmes relatifs à la mondialisation.
Alors, moi, ce que j'entends, Daniel Lebec, de ce que vient de dire Alain Deneau, c'est que tout est intimement imbriqué. Tout ça est constamment mouvant et en déplacement permanent. Et il me semble que, d'ailleurs, j'avais posé cette question dans la première partie de l'émission, on n'avait pas eu le temps de gratter sur la réponse, Daniel Lebec.
Je partage évidemment le constat d'Alain Deneau et la gravité du constat de l'état des lieux qu'il dresse. Je pense pour ma part que le système est arrivé à ses limites en termes d'acceptation sociale et politique. Et donc si c'est bien le cas, les gouvernements, partout dans le monde, vont réagir et ils ont commencé à le faire. Bien sûr qu'il est inacceptable d'apprendre, inacceptable pour l'opinion publique américaine comme européenne, pour les parlementaires démocrates et républicains aux États-Unis, comme pour nos parlementaires de gauche et de droite en Europe. C'est inacceptable de savoir que Apple, Google ont un taux moyen d'imposition au niveau mondial de 2%, 4%, 8% même, alors que nos PME, nos commerçants dans nos pays démocratiques paient l'impôt à 20, 25, 30, 35%. C'est inacceptable. C'est inacceptable.
C'est inacceptable, mais Daniel Lebec, pardonnez-moi, je vous interromps, mais elles sont ultra puissantes, ces sociétés, et on voit d'ailleurs aux États-Unis que cette lutte contre les paradis fiscaux irrite les grandes entreprises américaines. Les multinationales semblent passer à l'attaque, même si la population dans son ensemble est plutôt favorable à ce que les choses bougent. Elles ont, les multinationales, envoyé une lettre au vitriol au secrétaire américain au Trésor, Jacob Lew, contre les travaux de l'OCDE pour qu'il s'agit donc d'éviter que, à force de jouer avec les failles réglementaires, les grandes entreprises ne payent aucun impôt. Bref, tout cela semble être loin d'être acquis.
Je pense que vis-à-vis des grandes entreprises multinationales, on va connaître la même évolution que celle qui s'est produite vis-à-vis des investisseurs individuels depuis 7 ou 8 ans. On disait aussi, il y a 7 ou 8 ans, le secret bancaire est incontournable. On ne réussira jamais à convaincre les banques suisses, le Luxembourg, le Singapour et d'autres. Eh bien si, sous l'impulsion du G20, les règles du jeu ont changé et on en arrive maintenant à l'application pratique pour les particuliers. Pour les entreprises, on est au début du processus. Mais je rappelle que l'OCDE a mis sur la table du G8 et du G20 15 propositions pour lutter contre les excès de l'optimisation fiscale, notamment la pratique excessive ou abusive des prix de transfert. Il y a des propositions de l'OCDE. Il y a une enquête de la Commission européenne. Il y a cette obligation de reporting pour les grandes sociétés du secteur de l'énergie, du monde financier en Europe, etc. Il y a un mouvement qui est engagé et il ne va pas s'arrêter, notamment parce que l'opinion publique n'accepte plus un certain nombre des situations dont nous parlons. Et l'opinion publique, ça existe dans un système ouvert et démocratique, mais ça compte.
Mais alors, sans parler de l'opinion publique, je me tourne vers vous à nouveau, Daniel Lebec, et je demanderai à Alain Deneau de réagir ensuite. Moi, j'ai bien compris que notamment l'une des priorités, c'était de lutter contre la concurrence fiscale entre États. Mais pour ne parler que du cas de l'Europe, par exemple, on sait bien que dans le domaine de la fiscalité, les décisions doivent être prises à l'unanimité des 28 membres de l'Union européenne. Autant dire que pour que les règles changent, ça ne se fera pas du jour au lendemain, Daniel Lebec.
Oui, le Luxembourg et l'Autriche ont réussi à bloquer pendant 10 ans sur l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales à l'intérieur de l'Union européenne. Ils ont bloqué pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils ont mis les pouces. Parce que leurs partenaires leur ont dit, on n'accepte plus votre position. L'Irlande, j'ai beaucoup de respect pour l'Irlande, mais l'harmonisation de l'assiette et du taux de l'impôt sur les sociétés en Europe, à mon avis, va être en haut de l'agenda de la prochaine Commission européenne. Dans quelques semaines, c'est un sujet à traiter en priorité. Et évidemment, il conduira des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas ou le Luxembourg à accepter une harmonisation. L'harmonisation ne se fera pas nécessairement sur le taux le plus élevé, le nôtre. Non, ça peut être aussi une bonne opportunité pour la France de baisser un certain nombre de ses taux d'impôts.
À bon entendeur. Alain Deneau.
Pour aller dans le sens de les mobilisations publiques. Effectivement, aujourd'hui, on constate qu'on peut dire que le concept de souveraineté est réfracté. Un concept de souveraineté, qu'est-ce que c'est? Là, c'est le pouvoir qu'a un acteur social de prendre une décision qui s'ensuit des faits. Bon, quand un État est souverain, s'il prend des décisions, il y a des conséquences qui se vérifient. Bon, il y a une souveraineté d'État qui continue de s'observer, bon an, mal an, mais il y a également une souveraineté offshore qui s'observe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs qui inscrivent des opérations dans les paradis fiscaux ne font pas que fuir, mais ils organisent leurs activités depuis les paradis fiscaux pour parfois mobiliser des mercenaires, pratiquer le trafic d'armes, corrompre un dictateur, accéder à des ressources, les faire traiter par des travailleurs qui n'ont droit à aucun encadrement public, dans des zones franches, transporter les biens produits dans des bateaux qui battent pavillon de complaisance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on comprend aujourd'hui que des acteurs puissants peuvent complètement contourner les sphères traditionnellement dévolues à l'État. Il y a par contre aussi la souveraineté populaire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les peuples, évidemment dans le temps long de l'histoire, de modifier les choses sur un mode qui n'est pas nécessairement toujours technique. Même si la question technique est incontournable en ce qui concerne ces enjeux, c'est peut-être aussi parfois par, sait-on jamais, par une volonté politique qui s'ensuivrait une mobilisation publique. Mais pour cela, il faut, quant aux paradis fiscaux, en parler. Il faut parler du problème et pendant des décennies, on a fait comme si les paradis fiscaux n'existaient pas parce qu'on ne pouvait pas positivement évoquer ce qui s'y tramait, étant donné le secret bancaire, étant donné ce qu'ils sont. Et là, il faut aujourd'hui faire preuve d'un peu de spéculation au sens noble du terme, mais en quelque sorte extrapoler au fond ce qu'il en est de la réalité du système à partir des coups de sonde qu'on peut faire lorsqu'il y a un cas ou un autre qui surgit dans le domaine public. Et on peut aussi rappeler que les populations, à tout le moins des États traditionnels, on pourrait parler des populations du Sud qui paient un prix fort élevé du fait de l'existence des paradis fiscaux.
Alors mais justement, on disait pourtant que oui, les pays du Sud bénéficiaient des paradis fiscaux. Vous dites que non, Alain Deneau, bien
évidemment. Non, parce que les détournements de fonds, les fuites fiscales transitent par les paradis fiscaux et c'est évidemment un problème qui sévit beaucoup dans les pays du Sud, sans parler en ce qui concerne des États qui se transforment en paradis fiscaux, des droits de douane qui augmentent parce que ce sont finalement les petits consommateurs qui paient la note quand un État se transforme en paradis fiscal. Il faut le faire, quoi. Bon. Mais le problème, en ce qui concerne, disons, les populations du Nord, c'est qu'elles paient à trois titres. Déjà, il y a une fuite de capitaux non imposée. Par exemple, au Canada, en 1990, c'était 11 milliards de dollars que les entreprises faisaient transiter offshore. Aujourd'hui, c'est de 170 milliards qu'on parle. C'est-à-dire une augmentation de 1500%. Donc, d'une part, il y a une fuite. D'autre part, il y a un effet de dumping. C'est-à-dire que pour retenir les capitaux qui restent, on les impose moins. On s'inspire des paradis fiscaux pour faire en sorte que le capital qui reste sur le territoire soit pas tenté, lui aussi, de s'échapper. Par exemple, au Canada, le taux d'imposition fédéral sur le revenu des entreprises en 1981 était de près de 38%. Aujourd'hui, il est de 15%. Et je pourrais parler d'autres impôts qui ont tout simplement disparu en ce qui concerne le grand capital. Et le troisième point, c'est l'endettement. C'est qu'on emprunte à des instances qu'on n'impose plus, ce qui suppose un service de la dette. Et cela est d'autant plus choquant que les entreprises qui sont en France, au Canada, en Espagne, au Japon, peu importe, bénéficie des infrastructures publiques. Un investisseur qui arrive à Paris, là, il a besoin de ces installations, de ce système de justice, du système de santé publique, de sécurité sociale, de l'aide à l'entreprise, de tout ce que la France offre pour permettre à un titulaire d'actifs à titre privé de s'enrichir. Mais tout est fait pour qu'on ne paie pas d'impôts. Un ancien ministre des Finances chez nous a dit un jour, si une entreprise paie des impôts au Canada, c'est qu'elle a vraiment un mauvais comptable. Mais le problème maintenant, il se pose en ce que, et je vais dans le sens de ce que disait M. Lebègue, que les États font comme si, de plus en plus, ils ne pouvaient pas agir seuls, comme s'ils étaient seuls tout le temps. Et on a eu une embellie au moment de l'Offshore Leaks. C'est-à-dire au moment où ces journalistes d'un consortium de journalistes d'enquête indépendants ont, à l'échelle internationale, le même jour, fait connaître l'existence de listes qui témoignaient du phénomène offshore en tant qu'il est global. Là, les États ne pouvaient plus faire semblant de vouloir agir seuls, quoi. Mais cette rhétorique revient continuellement, officieusement, officiellement. Les États prétendent ne pas pouvoir agir seuls, alors que très souvent, ils sont les seuls à ne pas agir. En tout cas, ils sont les seuls dans le contexte canadien, alors que l'OCDE, le G8, le G20 se mobilisent à prétendre ne pas pouvoir agir seul. Enfin, ce que je veux dire, c'est une rhétorique qui revient souvent. On est confronté à ce que Pierre Bourdieu disait de l'État, à savoir qu'il a une main gauche et une main droite. Quoi. C'est qu'en même temps que la main gauche prétend lutter contre ce phénomène, par exemple, ben, la main droite va agir en sens contraire. Le Canada, par exemple, un tout petit exemple, et j'arrête là, mais le Canada a signé en 2010, il faut le faire, un accord de libre-échange avec le Panama. Alors que le Panama, c'est le principal pays où on blanchit les fonds issus du narcotrafic. Alors, en signant cet accord de libre-échange-là, on sait que statistiquement, les fonds qui proviendront du Panama au Canada, qui seront favorisés par cet accord, feront que le Canada sera intégré à cette structure visant à blanchir les fonds issus du narcotrafic, en favorisant la légalisation des opérations qui sont en cause dans ce type d'activité. Donc, on est en présence d'acteurs, finalement, paradoxaux, très complexes, qui sont loin d'être cohérents. Et c'est ce portrait d'ensemble-là qu'il faut essayer d'avoir toujours en tête.
Et ce que j'entends aussi de ce que vous venez de dire, Alain Deneau, c'est qu'on est face, Daniel Lebec, je me tourne vers vous, à des États qui sont extrêmement affaiblis, extrêmement fragilisés par tout ce qui était évoqué là, avec ces fonds qui s'en vont, des impôts qui ne sont pas payés, des dettes qui s'accroissent. On n'est pas loin de l'implosion.
Oui, mais en même temps, dos au mur, ils sont condamnés à agir et à coopérer dans la lutte contre la fraude fiscale, dans la lutte contre la délinquance financière, la corruption. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Je me situe même pas sur le terrain de la morale. Ils n'ont pas le choix. Imaginez qu'il y ait, et ça adviendra un jour, une nouvelle crise financière. Ça deviendra un jour parce que, en gros, la moitié des flux financiers internationaux sont toujours non régulés, non contrôlés. La finance dite offshore ou de l'ombre, c'est la moitié de la finance mondiale. Il va y avoir des accidents. Hélas, je dis ça avec tristesse. Et comment va-t-on faire cette fois-ci? Vous croyez que les gouvernements pourront une deuxième fois faire appel à leurs contribuables pour payer la facture et sauver des institutions financières? C'est impossible. Donc, un, il faut agir pour reprendre le contrôle dans toute la mesure du possible de la finance, des flux financiers, du système financier à l'échelle mondiale. Deuxièmement, regardez ce qui se passe en France. Il est impossible de demander, au travers de l'impôt sur le revenu ou de la TVA, une contribution supplémentaire aux ménages. C'est impossible. Alors, comment fait-on pour réduire les déficits publics, maintenir à peu près le niveau et la qualité des services publics si on ne trouve pas des leviers de financement nouveaux? Et franchement, la fraude fiscale ou la lutte contre la délinquance financière peut offrir ce levier-là. Je rappelle que pour les seules banques, le Trésor américain va recouvrer dans la période immédiatement devant nous 100 milliards de dollars d'amendes et de pénalités imposées à des titres divers, à des banques, à des institutions financières pour des faits, des actes constitutifs de délinquance financière. Donc, ne disons pas que les gouvernements ne peuvent rien faire et qu'ils ne font rien. Ils pourraient faire davantage.
En tout cas, moi, ce que je vois, Daniel Lebec plutôt optimiste et vous, Alain Deneau, plutôt pessimiste. Rapidement pour terminer.
Je dirais qu'on a inscrit ce débat dans le temps long de l'histoire. Je partage tout à fait les vues. Mais bien évidemment, quand on regarde les choses dans le tableau général, on se rend compte que les peuples doivent réapprendre à se donner des institutions qui leur ressemblent face à des gouvernements qui ressemblent de plus en plus à des éléments participants d'une oligarchie. Donc on est en présence d'un monde étriqué. Et effectivement, les peuples ont à se saisir de cette question pour que nous avancions.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Alain Deneau, enseignant à l'Université de Montréal, chroniqueur dans la revue Liberté, chercheur au réseau pour la justice fiscale et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Paradis fiscaux, la filière canadienne, Barbade, Caïmans, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario, aux éditions Éco-Société. Et Daniel Lebec, président de Transparency International France. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'espace. À demain.